Toi plus. Célestin, vite les feuilles. Qu'est-ce que monsieur désire prendre ?
Quoique n'ayant besoin de rien prendre, Frédéric avala un verre de rhum, puis un verre de kirsch, puis un verre de curaçao, puis différents grogs, tant froids que chauds. Il lut tout le siècle du jour et le relut. Il examina, jusque dans les grains du papier, la caricature du charivari. À la fin, il savait par cœur les annonces. De temps à autre, des bottes résonnaient sur le trottoir, c'était lui. Et la forme de quelqu'un se profilait sur les carreaux, mais cela passait toujours. Afin de se désennuyer, Frédéric changeait de place. Il alla se mettre dans le fond, puis à droite, ensuite à gauche. Et il restait au milieu de la banquette, les deux bras étendus. Mais un chat, foulant délicatement le velours du dossier, lui faisait des peurs en bondissant tout à coup pour lécher les taches de sirop sur le plateau. Et l'enfant de la maison, un intolérable mioche de 4 ans, jouait avec une crécelle sur les marches du comptoir. Sa maman, petite femme palote à dents gâtées, souriait d'un air stupide. Que pouvait donc faire Ginbard ? Frédéric l'attendait, perdu dans une détresse illimitée. La pluie sonnait comme grêle sur la capote du cabriolet. Par l'écartement du rideau de mousseline, il apercevait dans la rue le pauvre cheval, plus immobile qu'un cheval de bois. Le ruisseau, devenu énorme, coulait entre 2 rayons de roue, et le cocher s'abritant de la couverture sommeillait. Mais, craignant que son bourgeois ne s'esquivât, de temps à autre, il entr'ouvrait la porte, tout ruisselant comme un fleuve. Et si le regard pouvait user les choses, Frédéric aurait dissous l'horloge à force d'attacher dessus les yeux. Elle marchait cependant. Le sieur Alexandre se promenait de long en large en répétant « Il va venir, allez, il va venir !» Et pour le distraire, lui tenait des discours, parlait politique. Il poussa même la complaisance jusqu'à lui proposer une partie de domino. Enfin, à 4h30, Frédéric, qui était là depuis midi, se leva d'un bond, déclarant qu'il n'attendait plus. « Je n'y comprends rien moi-même, » répondit le cafetier d'un air candide. « C'est la première fois que manque M. Ledoux. » « Comment, monsieur Ledoux ?»« Mais oui, monsieur, j'ai dit Ginbard !» s'écria Frédéric exaspéré. « Ah, mille excuses, vous faites erreur. N'est-ce pas, madame Alexandre, monsieur a dit monsieur Ledoux ?» et interpellant le garçon, « Vous l'avez entendu vous-même, comme moi !» Pour se venger de son maître, sans doute, le garçon se contenta de sourire. Frédéric se fit ramener vers les boulevards, indigné du temps perdu, furieux contre le citoyen, implorant sa présence comme celle d'un dieu, et bien résolu à l'extraire du fond des caves les plus lointaines. Sa voiture l'agaçait, il la renvoya. Ses idées se brouillaient. Puis, tous les noms des cafés qu'il avait entendus prononcer par cet imbécile jaillirent de sa mémoire à la fois comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Café Gascard, Café Grimbert, Café Almou, Estaminet Bordelais, Havanais, Havrais, Bœuf à la mode, Brasserie allemande, Mère Morel, et il se transporta dans tous successivement. Mais dans l'un, Ginbard venait de sortir. Dans un autre, il viendrait peut-être. Dans un troisième, on ne l'avait pas vu depuis 6 mois. Ailleurs, il avait commandé hier un gigot pour samedi. Enfin, chez Vautier, limonadier, Frédéric, ouvrant la porte, se heurta contre le garçon. « Connaissez-vous, monsieur Ginbard ?»«
Comment, monsieur, si je le connais, c'est moi qui ai l'honneur de le servir ?» Il est en haut, il achève de dîner. »
Et la serviette sous le bras, le maître de l'établissement, lui-même, l'aborda.
« Vous demandez, monsieur Ginbard, monsieur. Il était ici à l'instant. »
Frédéric poussa un juron, mais le limonadier affirma qu'il le trouverait chez Boutevillain, infailliblement.
« Je vous en donne ma parole d'honneur. »
Il est parti un peu plus tôt que de coutume, car il a un rendez-vous d'affaires avec des messieurs. Mais vous le trouverez, je vous le répète, chez Boutevillain, rue Saint-Martin, 92, deuxième perron à gauche, au fond de la cour, entresol, porte à droite. Enfin, il l'aperçut à travers la fumée des pipes, seul, au fond de l'arrière-buvette, après le billard, une chope devant lui, le menton baissé, et dans une attitude méditative.
« Ah, il y a longtemps que je vous cherchais, vous. »
Sans s'émouvoir, Ginbard lui tendit 2 doigts seulement, et comme s'il l'avait vu la veille, il débita plusieurs phrases insignifiantes sur l'ouverture de la session. Frédéric l'interrompit en lui disant de l'air le plus naturel qu'il put « Arnoux va bien ?» La réponse fut longue à venir. Regimbard se gargarisait avec son liquide.
« Oui, pas mal. »«
Où demeure-t-il donc, maintenant ?»«
Mais rue Paradis Poissonnière, » répondit le citoyen étonné.
« Quel numéro ?»«
37, parbleu, vous êtes drôle. »
Frédéric se leva.
« Comment, vous partez ?»«
Oui, oui, j'ai une course, une affaire que j'oubliais. Adieu. »
Frédéric alla de l'estaminet chez Arnoux, comme soulevé par un vent tiède et avec l'aisance extraordinaire que l'on éprouve dans les songes.
Il se trouva bientôt à un second étage, devant une porte dont la sonnette retentissait. Une servante parut. Une seconde porte s'ouvrit. Madame Arnoux était assise près du feu. Arnoux fit un bond et l'embrassa. Elle avait sur ses genoux un petit garçon de 3 ans à peu près. Sa fille, grande comme elle maintenant, se tenait debout de l'autre côté de la cheminée.
« Permettez-moi de vous présenter ce monsieur-là, » dit Arnoux, en prenant son fils par les aisselles.
Et il s'amusa quelques minutes à le faire sauter en l'air, très haut, pour le recevoir au bout de ses bras.
« Tu vas le tuer ! Ah, mon Dieu ! Fini donc !» s'écriait Madame Arnoux.
Mais Arnoux, jurant qu'il n'y avait pas de danger, continuait, et même zézayait des caresses en patois marseillais, son langage natal.
« Ah, brave Pitchoun, mon poulet rossignolet !»
Puis, il demanda à Frédéric pourquoi il avait été si longtemps sans leur écrire, ce qu'il avait pu faire là-bas, ce qui leur amenait.
« Moi, à présent, cher ami, je suis marchand de faïence. Mais causons de vous !»
Frédéric allégua un long procès, la santé de sa mère. Il insista beaucoup là-dessus afin de se rendre intéressant. Bref, il se fixait à Paris, définitivement cette fois. Et il ne dit rien de l'héritage, dans la peur de nuire à son passé. Les rideaux, comme les meubles, étaient en damas de laine marron. Deux oreillers se touchaient contre le traversin. Une bouillotte chauffait dans les charbons. Et l'abat-jour de la lampe, posée au bord de la commode, assombrissait l'appartement. Madame Arnoux avait une robe de chambre en mérinos gros bleu. Le regard tourné vers les cendres et une main sur l'épaule du petit garçon, elle défaisait, de l'autre, le lacet de la brassière. Le mioche en chemise pleurait tout en se grattant la tête, comme M. Alexandre fils. Frédéric s'était attendu à des spasmes de joie, mais les passions s'étiolent quand on les dépayse, et ne retrouvant plus Madame Arnoux dans le milieu où il l'avait connue, elle lui semblait avoir perdu quelque chose, portée confusément comme une dégradation, enfin n'être pas la même. Le calme de son cœur le stupéfiait. Il s'informa des anciens amis, de pèlerins, entre autres.
« Je ne le vois pas souvent, » dit Arnoux.
Elle ajouta,
« Nous ne recevons plus comme autrefois. »
Était-ce pour l'avertir